Chapitre 16. Quand je songe, se dit Durtal, le lendemain, qu'au lit, à ce moment où la plus pertinace volonté succombe, j'ai tenu bon, j'ai refusé de céder aux instances de Hyacinthe, voulant prendre pied ici, et qu'après le déclin charnel, à cet instant où l'homme diminué se reprend, je l'ai supplié moi-même de continuer ses visites, c'est à n'y rien comprendre. Au fond, je n'avais pas arrêté la ferme résolution d'en finir avec elle, et puis je ne pouvais cependant la congédier comme une fille, reprit-il, pour se justifier l'incohérence de ce revirement. J'espérais aussi avoir des renseignements sur le chanoine. Oh, mais, à ce propos, je ne la tiens pas quitte. Il faudra qu'elle se décide à parler, à ne pas répondre par des monosyllabes ou des phrases en garde, ainsi qu'hier. Au fait, qu'a-t-elle pu faire avec cet abbé qui a été son confesseur et qui, de son aveu même, l'a lancé dans l'incubat? Elle a été sa maîtresse, cela est sûr. Et combien, parmi ces autres ecclésiastiques qu'elle a fréquentés, ont été ses amants aussi? Car elle l'a confessé dans un cri, ce sont ces gens-là qu'elle aime. Ah, si l'on fréquentait le monde clérical, l'on apprendrait sans doute de curieuses particularités sur son mari et sur elle. C'est tout de même étrange. Chantelouve, qui joue un singulier rôle dans ce ménage, s'est acquis une déplorable réputation, et elle, pas. Jamais je n'ai ouï parler de ses frasques. Mais non, que je suis bête, ce n'est pas étrange. Son mari ne s'est pas confiné dans les cercles religieux et mondains. Il se frotte aux gens de lettres, s'expose par conséquent à toutes les médisances, tandis qu'elle, si elle prend un amant, elle le choisit certainement dans des sociétés pieuses où aucun de ceux que je connais ne serait reçu. Et puis, les abbés sont souvent gens discrets. Mais comment expliquer alors qu'elle vienne ici? Par ce fait bien simple qu'elle a probablement eu une indigestion de soutanier et qu'elle m'a requis pour faire un intérim de bas noir. Je lui sers de halte laïque. C'est égal, elle est tout de même bien singulière, et plus je la vois, moins je la comprends. Il y a en elle trois êtres distincts. D'abord, la femme assise, ou debout, que j'ai connue dans son salon, réservée, presque hautaine, devenue bonne fille dans l'intimité, affectueuse, tendre même. Puis, la femme couchée, complètement changée d'allure et de voix, une fille crachant de la boue, perdant toute vergogne. Enfin la troisième, que j'ai aperçue hier, une impitoyable matine, une femme vraiment satanique, vraiment rosse. Comment tout cela s'amalgame et s'allie, je l'ignore. Par l'hypocrisie sans doute, et encore non, elle est souvent d'une franchise qui déconcerte. Ce sont peut-être, il est vrai, des moments de détente ou d'oubli. Au fond, à quoi bon essayer de comprendre le caractère de cette dévote lubrique? En somme, ce que je pouvais appréhender ne se réalise point. Elle ne me demande pas de la sortir, ne me force pas à dîner chez elle, ne me réclame aucune prébende, n'exige aucune compromission d'aventurière, plus ou moins louche. Je ne trouverai jamais mieux. Oui, mais c'est que maintenant je préférerais ne rien trouver. Il me suffirait très bien de déposer entre des mains mercenaires mes pétitions charnelles. Et alors, pour 20 francs, j'achèterais de plus studieuses crises. Car il n'y a pas à dire, seules les filles savent cuisiner des petits plats d'essence. Ce qui est bizarre, se dit-il soudain, après un silence de réflexion, c'est que toute proportion gardée, Gilles de Ré se divise comme elle en trois êtres qui diffèrent. D'abord, le soudard, brave et pieux. Puis, l'artiste, raffiné et criminel. Enfin, le pêcheur qui se repent, le mystique. Il est tout en volte-face d'excès, celui-là. À contempler le panorama de sa vie, l'on découvre en face de chacun de ses vices une vertu qui le contredit. Mais aucune route visible ne les rejoint. Il fut d'un orgueil orageux, d'une superbe immense, et lorsque la contrition s'empara de lui, il tomba à genoux devant le peuple et il eut les larmes, l'humilité d'un saint. Sa férocité dépassa les limites du loyer humain, Et cependant il fut charitable, et il adora ses amis qu'il soigna tel qu'un frère, dès que le démon les meurtrit. Impétueux dans ses souhaits et néanmoins patient, brave dans les batailles, lâche devant l'au-delà, il fut despotique et violent, faible pourtant, lorsque les louanges de ses parasites s'est offert. Il est tantôt sur les cimes, tantôt dans les bas-fonds, jamais dans la plaine parcourue dans les pampas de l'âme. Ses aveux n'éclairent même point ses invariables antipodes. Il répond, alors qu'on lui demande qui lui suggéra l'idée de pareil crime, « Personne. Mon imagination seule m'y a poussé. La pensée ne m'en est venue que de moi-même, de mes rêveries, de mes plaisirs journaliers, de mes goûts pour la débauche. » Et il s'accuse de son oisiveté, assure constamment que les repas délicats, que les robustes breuvages ont aidé à décager chez lui le fauve. Loin des passions médiocres, il s'exalte, tour à tour, dans le bien comme dans le mal, et il plonge, tête baissée, dans les gouffres opposés de l'âme. Il meurt à l'âge de 36 ans, mais il avait tari le flux des joies désordonnées, le reflux des douleurs que rien n'apaise. Il avait adoré la mort, aimé en vampire, baisé d'inimitables expressions de souffrance et d'effroi, et il avait également été pressuré par d'infrangibles remords, par d'insatiables peurs. Il n'avait plus ici-bas rien à tenter, rien à apprendre. « Voyons, » fit Durtal, qui feuilletait ses notes, « je l'ai laissé au moment où l'expiation commence, ainsi que je l'ai écrit dans l'un de mes précédents chapitres. Les habitants des régions que dominent les châteaux du maréchal savent maintenant quel est l'inconcevable monstre qui enlève les enfants et les égorge. Mais personne n'ose parler. Dès qu'au tournant d'un chemin, la haute taille du carnassier émerge, tous s'enfuient, se tapissent derrière les haies, s'enferment dans les chaumières. Et Gilles passe, altier et sombre, dans le désert des villages singultueux et clos. L'impunité lui semble assurée. Car quel paysan serait assez fou pour s'attaquer à un maître qui peut le faire patibuler au moindre mot? D'autre part, si les humbles renoncent à l'atteindre, ses pairs n'ont pas dessein de le combattre au profit de Manon qu'il dédaigne. Et son supérieur, le duc de Bourgogne, Jean V, le caresse et le choie afin de lui extorquer à bas prix ses terres. Une seule puissance pourrait se lever et, au-dessus de complicité féodale, au-dessus des intérêts humains, venger les opprimés et les faibles, l'Église. Et ce fut elle en effet qui, dans la personne de Jean de Malestroit, se dressa devant le monstre et l'abattit. Jean de Malestroit, évêque de Nantes, appartenait à une lignée illustre. Il était proche parent de Jean V, et son incomparable piété, sa sagesse assidue, sa fougueuse charité, son infaillible science le faisaient vénérer par le duc même. Les sanglots des campagnes décimées par Gilles étaient venus jusqu'à lui. En silence, il commençait une enquête, épiait le maréchal, décidé, dès qu'il le pourrait, à commencer la lutte. Et Gilles commit subitement un inexplicable attentat qui permit à l'évêque de marcher droit sur lui et de le frapper. Pour réparer les avaries de sa fortune, Gilles vend sa seigneurie de Saint-Étienne de Mermorte à un sujet de Jean V, Guillaume Le Ferron, qui délègue son frère Jean pour prendre possession de ses domaines. Quelques jours après, le maréchal réunit les 200 hommes de sa maison militaire et il se dirige à leur tête sur Saint-Étienne. Là, le jour de la Pentecôte, alors que le peuple réuni entend la messe, il se précipite, la jusarme au poing, dans l'église, balaie d'un geste les rangs tumultueux des fidèles et, devant le prêtre interdit, menace d'égorger Jean Le Ferron qui prie. La cérémonie est interrompue, les assistants prennent la fuite. Gilles traîne Le Ferron qui demande grâce jusqu'au château, ordonne qu'on baisse le pont-levis et de force il occupe la place, tandis que son prisonnier est emporté et jeté à Tiffauges dans un fond de geôle. Il venait du même coup de violer le coutumier de Bretagne qui interdisait à tout baron de lever des troupes sans le consentement du duc, et de commettre un double sacrilège en profanant une chapelle et en s'emparant de Jean le Féron qui était un clerc tonsuré d'église. L'évêque apprend ce guet-apens et décide Jean V, qui hésite pourtant, à marcher contre le rebelle. Alors, tandis qu'une armée s'avance sur Saint-Étienne, que Gilles abandonne pour se réfugier avec sa petite troupe dans le manoir fortifié de Machecoul, une autre armée met le siège devant Tiffauges. Pendant ce temps, le prélat accumule, hâte les enquêtes. Son activité devient extraordinaire. Il délègue des commissaires et des procureurs dans tous les villages où des enfants ont disparu. Lui-même quitte son palais de Nantes, parcourt les campagnes, recueille les dépositions des victimes. Le peuple marche enfin, le supplie à genoux de le protéger, et soulevé par les atroces forfaits qu'on lui révèle, l'évêque jure qu'il fera justice. Un mois a suffi pour que tous les rapports soient terminés. Par lettre patente, Jean de Malestroit établit publiquement l'infamatio de Gilles. Puis, alors que les formules de la procédure canonique sont épuisées, il lance le mandat d'arrêt. Dans cette pièce libellée en forme de mandement et donnée à Nantes le 13 septembre de l'an du Seigneur 1440, il rappelle les crimes imputés au maréchal. Puis, dans un style énergique, il somme son diocèse de marcher contre l'assassin, de le débusquer. Ainsi, nous vous enjoignons à tous et à chacun de vous, en particulier, par ses présentes lettres, de citer immédiatement et d'une manière définitive, sans compter l'un sur l'autre, sans vous reposer de ce soin sur autrui, de citer devant nous ou devant l'official de notre église cathédrale, pour le lundi de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, le 19 septembre, Gilles, noble baron de Ré, soumis à notre puissance et relevant de notre juridiction. Et nous le citons nous-mêmes, par ses lettres, à comparaître à notre barre pour avoir à répondre des crimes qui pèsent sur lui. Exécutez donc ses ordres et que chacun de vous les fasse exécuter. Et le lendemain, le capitaine d'armes Jean Labbé, agissant au nom du duc, et Robin Guillaumet, notaire, agissant au nom de l'évêque, se présentent escortés d'une petite troupe devant le château de Machecoul. Que se passa-t-il dans l'âme du maréchal? Trop faible pour tenir en rase campagne, il peut néanmoins se défendre derrière les remparts qu'il abrite et il se rend. Roger de Briqueville, Gilles de Sillé, ses conseillers habituels, ont pris la fuite. Il reste seul avec Prélati qui essaie en vain lui aussi de se sauver. Il est ainsi que Gilles, chargé de chaînes, Robin Guillaumet visite la forteresse de Fontencomble, il y découvre des chemisettes sanglantes, des os mal calcinés, des cendres que Prélati n'a pas eu le temps de précipiter dans les latrines et les douves. Au milieu des malédictions, des cris d'horreur qui jaillissent autour d'eux, Gilles et ses serviteurs sont conduits à Nantes et écroués au château de la Tour Neuve. Tout cela, ce n'est pas en somme très clair, se disait Durtal, étant donné le casse-cou que fut autrefois le maréchal, comment admettre que, sans coup férir, il livre ainsi sa tête. Fut-il amolli, ébranlé par ses nuits de débauche, démantelé par les abjectes délices des sacrilèges, effondré, moulu par les remords? Fut-il là de vivre ainsi, et se délaissa-t-il comme tant de meurtriers que le châtiment attire? Nul ne le sait. Se jugea-t-il d'un rang si élevé qu'il se crut incoercible? Espéra-t-il enfin désarmer le duc, en tablant sur sa vénalité, en lui offrant une rançon de manoir et de prêt? Tout est plausible. Il pouvait aussi savoir combien Jean V avait hésité, de peur de mécontenter la noblesse de son duché, à céder aux objurgations de l'évêque et à lever des troupes pour le traquer et le saisir. Ce qui est certain, c'est qu'aucun document ne répond à ces questions. Encore, tout cela peut-il être mis à peu près en place dans un livre, se disait-il, mais ce qui est bien autrement fastidieux et obscur, c'est au point de vue des juridictions criminelles, le procès même. Aussitôt que Gilles et ses complices furent incarcérés, deux tribunaux s'organisèrent, l'un ecclésiastique pour juger les crimes qui relevaient de l'Église, l'autre civil pour juger ceux auxquels il appartenait à l'État de connaître. À vrai dire, le tribunal civil, qui assista au débat ecclésiastique, s'effaça complètement dans cette cause. Il ne fit pour la forme qu'une petite contre-enquête, mais il prononça la sentence de mort que l'Église s'interdisait de proférer en raison du vieil adage « Ecclesia aboret a sanguine ». Les procédures ecclésiastiques durèrent 1 mois et 8 jours, les procédures civiles 48 heures. Il semble que pour se mettre à l'abri derrière l'évêque, le duc de Bretagne ait volontairement amoindri le rôle de la justice civile qui d'ordinaire se débattait mieux contre les empiétements de l'official. Jean de Malestroit préside les audiences. Il choisit pour assesseurs les évêques du Mans, de Saint-Brieuc et de Saint-Loup. Puis, en sus de ces hauts dignitaires, il s'entoure d'une troupe de juristes qui se relaient dans les interminables séances du procès. Les noms de la plupart d'entre eux figurent dans les pièces de procédure. Ce sont Guillaume de Montigné, avocat à la cour séculière, Jean Blanchet, bachelier à Seloy, Guillaume Groguet et Robert de la Rivière, licencié in utroque juré, Hervé Lévy, sénéchal de Quimper, Pierre de l'Hospital, chancelier de Bretagne, qui doit présider après le jugement canonique les débats civils, assiste Jean de Malestroit. Le promoteur, qui faisait alors office de ministère public, fut Guillaume Chaperon, curé de Saint-Nicolas, homme éloquent et retors. On lui adjoignit, pour alléger la fatigue des lectures, Geoffroy Piprère, doyen de Sainte-Marie, et Jacques de Pencoedic, official de l'église de Nantes. Enfin, à côté de la juridiction épiscopale, l'église avait institué pour la répression du crime d'hérésie, qui comprenait alors le parjure, le blasphème, le sacrilège, tous les forfaits de la magie, le tribunal extraordinaire de l'Inquisition. Il siégea, aux côtés de Jean de Malestroit, en la redoutable et docte personne de Jean Blouin, de l'ordre de Saint-Dominique, délégué par le grand inquisiteur de France, Guillaume Mérici, aux fonctions de vice-inquisiteur de la ville et du diocèse de Nantes. Le tribunal constitué, le procès s'ouvre dès le matin, car juges et témoins doivent être, suivant la coutume du temps, à jeun. On y entend le récit des parents des victimes, et Robin Guillaumet faisant fonction d'huissier, celui-là même qui s'est emparé du maréchal à Machecoul, donne lecture de l'assignation faite à Gilles de Rais de paraître. Il est amené et déclare dédaigneusement qu'il n'accepte pas la compétence du tribunal, mais ainsi que le veut la procédure canonique, le promoteur rejette aussitôt pour ce que par ce moyen la correction du maléfice ne soit empêchée, le déclinatoire comme étant nul en droit et frivole. Et il obtient du tribunal qu'on passe outre. Il commence à lire l'inculpé, les chefs de l'accusation portés contre lui. Gilles crie que le promoteur est menteur et traître. Alors Guillaume Chaperon étend le bras vers le Christ, jure qu'il dit la vérité et invite le maréchal à prêter le même serment. Mais cet homme, qui n'a reculé devant aucun sacrilège, se trouble, refuse de se parjurer devant Dieu et la séance se lève dans le brouhaha des outrages que Gilles vocifère contre le promoteur. Ces préambules terminés, quelques jours après, les débats publics commencent. L'acte d'accusation dressé en forme de réquisitoire est lu tout haut, devant l'accusé, devant le peuple qui tremble, alors que Chaperon énumère, un à un, patiemment les crimes. Accuse formellement le maréchal d'avoir pollué aussi des petits-enfants, d'avoir pratiqué les opérations de la sorcellerie et de la magie, d'avoir violé à Saint-Étienne de Mermorte les immunités de la Sainte Église. Puis, après un silence, il reprend son discours et, laissant de côté les meurtres, ne retenant plus que les crimes dont la punition prévue par le droit canonique pouvait être prononcée par l'Église, il demande que Gilles soit frappé de la double excommunication. D'abord comme évocateur de démons hérétiques, apostats et relapses, ensuite comme sodomite et sacrilège. Gilles, qui a écouté ce réquisitoire tumultueux et serré, âpre et dense, s'exaspère. Il insulte les juges, les traite de simoniaque et de ribaud, et il refuse de répondre aux questions qu'on lui pose. Le promoteur, les assesseurs ne se lassent point. Il l'invite à présenter sa défense. De nouveau, il les récuse, les outrage, puis lorsqu'il s'agit de les réfuter, il demeure muet. Alors l'évêque et le vice-inquisiteur le déclarent contumace et prononcent contre lui la sentence d'excommunication qui est aussitôt rendue publique. Il décide en outre que les débats se poursuivront le lendemain. Un coup de sonnette interrompit la lecture que Durtal faisait de ses notes et Des Hermies entra. « Je viens de voir Carex, qui est souffrant, dit-il. Tiens, qu'est-ce qu'il a ? Oh, rien de grave, un peu de bronchite, il sera debout dans 2 jours, s'il consent à rester tranquille. J'irai le voir demain, fit Durtal. Et toi, que fais-tu, reprit Des Hermies ? Tu travailles ? Mais oui, je pioche le procès du noble baron de Ré. Ce sera aussi ennuyeux à écrire qu'à lire. Et tu ne sais toujours pas quand tu auras fini ton volume ? Non, répondit Durtal en s'étirant. Au reste, je ne désire pas qu'il se termine. Que deviendrai-je alors ? Il faudra chercher un autre sujet, retrouver la mise en train des chapitres de début si embêtant à poser. Je passerai de mortelles heures d'oisiveté. Vraiment, vraiment, quand j'y songe, la littérature n'a qu'une raison d'être, sauver celui qui l'a fait du dégoût de vivre, et charitablement alléger la détresse des quelques-uns qui aiment encore l'art, ce qu'ils sont peu, et leur nombre va en diminuant. La nouvelle génération ne s'intéresse plus qu'aux jeux de hasard et aux jockeys. Oui, c'est exact. Maintenant, les hommes jouent et ne lisent plus. Ce sont les femmes, dites du monde, qui achètent les livres et déterminent les succès ou les fours. Aussi est-ce à la dame, comme l'appelait Schopenhauer, à la petite oie, comme je la qualifierais volontiers, que nous sommes redevables de ces écuellés de romans tièdes et mucilagineux qu'on vante. Ça promet dans l'avenir une jolie littérature, car pour plaire aux femmes, il faut naturellement énoncer en un style secouru des idées déjà digérées et toujours chauves. Oh ! Et puis reprit Durtal après un silence, il vaut peut-être mieux qu'il en soit ainsi. Les rares artistes qui restent n'ont plus à s'occuper du public. Ils vivent et travaillent loin des salons, loin de la cohue des couturiers de lettres. Le seul dépit qu'ils puissent honnêtement ressentir, c'est quand leur œuvre est imprimée de l'avoir exposée aux salissantes curiosités des foules. Le fait est, dit Des Hermies, que c'est une véritable prostitution. La mise en vente, c'est l'acceptation des déshonorantes familiarités du premier venu. C'est la pollution, le viol consenti du peu qu'on vaut. Oui, c'est notre impénitent orgueil et aussi le besoin de misérables sous qui font qu'on ne peut garder ses manuscrits à l'abri des mufles. L'art devrait être, ainsi que la femme qu'on aime, hors de portée, dans l'espace, loin. Car enfin, c'est avec la prière, la seule éjaculation de l'âme, qui soit propre. Ainsi, lorsqu'un de mes livres paraît, je le délaisse avec horreur. Je m'écarte autant que possible des endroits où il bat sa retape. Je ne me soucie un peu de lui qu'après des années, alors qu'il a disparu de toutes les vitrines, qu'il est à peu près mort. C'est te dire que je ne suis pas pressé de terminer l'histoire de Gilles, qui malheureusement tout de même s'achève. Le sort qui lui est réservé me laisse indifférent, et je m'en désintéresserai même absolument quand elle paraîtra. Dis donc, fais-tu quelque chose ce soir ? Non, pourquoi ? Veux-tu que nous dînions ensemble ? Ça va. Et tandis que Durtal enfilait ses bottines, Des Hermies se reprit. Ce qui me frappe encore dans le monde soi-disant littéraire de ce temps, c'est la qualité de son hypocrisie et de sa bassesse. Ce que par exemple ce mot de dilettante aura servi à couvrir de turpitude. Certes, car il permet les plus fructueux des ménagements. Mais ce qui est plus confondant, c'est que tout critique qui se le décerne maintenant comme un éloge ne se doute même pas qu'il se soufflette. Car enfin tout cela se résume en un illogisme. Le dilettante n'a pas de tempérament personnel puisqu'il n'exècre rien et qu'il aime tout. Or, quiconque n'a pas de tempérament personnel n'a pas de talent. Donc, reprit Des Hermies, en mettant son chapeau, tout auteur qui se vante d'être un dilettante avoue par cela même qu'il est un écrivain nul. Dame,